La coiffeuse aux accents de nos sens, de l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission à l'appellation étrange. Née suite à l'initiative de Milena Voloutchenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum gentiane caviar de braque jaune. Posez vos affaires, détendez-vous et surtout mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents de nos sens, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie, si vous souhaitez nous suivre. Son nom de l'émission troublant et bizarre, la coiffeuse aux accents, a pour but réveiller vos esprits et vous emmener vers d'autres plateaux de votre conscience. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Alors, je vous invite tous à vous décoiffer soigneusement et à aller à l'essentiel, dire la magie de nos sens, olfactif, auditif, gustatif, visuel, tactile. La magie olfactive de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième, ce fameux chemin vers la volupté intérieure inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la devanture d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de jonquilles nous ramène à notre enfance. Un certain jour de Pâques ou de Noël, si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques brins de sapin dans les jonquilles. Enfin, gousse de vanille et on se souvient du baiser maternel, tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grands-parents, les porte-manteaux de nos mères s'en souviennent. Comme par exemple ce cornet de voyage du tiroir central de la coiffeuse, ou son cahier de chant, de la poésie, ou son cahier de musique, ou boîte de rangement de vieux films, intemporellement intégrés à l'intérieur de chaque tiroir. Il nous amène aujourd'hui en Russie et dévoile les différences des traditions liées au calendrier julien et grégorien. Beaucoup de Russes et de nombreux Slaves orientaux fêtent un Noël et 12 jours de l'an. Nouvel an, le 1er janvier, Noël orthodoxe, le 7 janvier, et Nouvel an, dit ancien, le 14 janvier. Et bah, pourquoi? Et voici pourquoi. Le calendrier que nous connaissons, utilisé dans le monde entier, est connu sous le nom de calendrier chrétien ou calendrier grégorien. Ce système de calendrier a pris la relève du calendrier julien antérieur utilisé de 45e année avant Jésus-Christ à 1582. Calendrier julien, c'est un calendrier qui a été présenté au monde par Jules César en 46e année avant Jésus-Christ. Lorsque Jules César gagne l'Égypte en 48e année avant Jésus-Christ, il ressent le besoin d'une réforme du calendrier. Le calendrier qu'il a présenté divise une année en 12 mois et contient 365 jours avec un jour supplémentaire tous les 4 ans pour tenir compte de la durée réelle de 365,25 jours pour une année solaire. La durée d'une année, 365,25, prise dans le calendrier julien, s'est ensuite révélée fausse. L'erreur a signifié que le calendrier julien a manqué près d'un jour tous les 131 ans. Après plusieurs siècles, le calendrier julien devenait imprécis pour calculer les saisons exactes et, bien sûr, le jour le plus important pour les chrétiens, la fête de Pâques. Pour réformer le calendrier julien, le calendrier grégorien a été introduit en 1582 par le pape Grégoire XIII. Fabrice Oléry, ici présent, merci d'être là d'ailleurs.
Je viens de me souvenir que le décalage entre ces deux calendriers, grégorien et julien, avait été la cause avait du moins facilité la victoire d'Austerlitz. Car une des armées russes qui devait prêter main forte à l'armée du tsar et à l'armée de l'empereur d'Autriche, on a appelé ça la bataille des trois empereurs, hein, puisqu'il y avait donc trois empereurs sur le champ de bataille, est arrivée en retard de plusieurs jours, et donc n'a pu prêter main forte aux alliés, aux austro-russes. À cause de ce décalage, donc elle est arrivée en retard, mais pensait être à l'heure de bonne foi. Petite parenthèse que je voulais faire.
Magnifique témoignage.
Oui.
Et on sait en plus que vous êtes absolument passionné de l'histoire. Et puis, merci pour ces précisions,
voilà,
pour cette petite anecdote.
Je pense que Napoléon aurait tout de même gagné la bataille, mais avec moins de facilité.
Bah, on aura l'occasion justement de parler de Napoléon dans quelques instants. Ce que je souhaite rajouter, que c'est jusqu'en 1918, la Russie et le monde occidental vivaient selon des calendriers différents. La Russie suivait en effet le calendrier julien, qui était en retard, comme vous le dites si bien, de 2 semaines par rapport au grégorien. En 1918, les bolcheviks ont toutefois adopté le nouveau calendrier, mais le clergé russe a décidé de conserver l'ancien, le calendrier julien de Jules César. Ainsi, en réalité, l'Église orthodoxe fête bel et bien Noël le 25 décembre, mais selon son propre calendrier, date qui correspond pour le reste du pays au 7 janvier. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient l'habitude de fêter le début de la nouvelle année? En général, ce qu'on dit que c'est la seule date qui reste du calendrier basé sur les travaux agricoles qui existaient chez les Slaves anciens. À partir du 10e siècle, le nouvel an fut célébré le 1er mars au début des travaux de printemps. 5 siècles plus tard, et fut déplacé au 1er septembre, le jour où ces travaux prenaient fin. C'est le décret de Pierre le Grand, le tsar et l'empereur de toute la Russie, du 19 décembre 1699, qui déplaça une nouvelle fois la fête du au 1er janvier du calendrier julien, alors en vigueur. Sur un ton qui paraît aujourd'hui humoristique. Étant donné qu'en Russie, tout le monde célèbre le nouvel an de façon différente, ce jour-là, il faut arrêter de prendre la tête aux gens et dater partout le début de la nouvelle année au 1er janvier. Et la fête est de mise. Il faut souhaiter une bonne année à tout le monde, le succès dans les affaires et le bonheur familial. En l'honneur du nouvel an, décorer les sapins, amuser les enfants, les promener en traîneau, et les adultes ne doivent pas boire ni se battre, il y en a assez d'autres journées pour ça. Bien que calendrier grégorien soit officiel en Russie, les Russes célèbrent aussi l'ancien nouvel an, le 14 janvier, ce qui correspond au 1er janvier du calendrier julien, et le jour de Noël, fêté le 7 janvier en Russie, a de nouveau été inscrit dans le calendrier russe en 1991. Pierre Smirnov, qui est né en France, le fils d'un immigré russe, également résident environné depuis plusieurs années, et après ses nombreux voyages et séjours dans le monde, nous apporte aujourd'hui son témoignage précieux de la tradition des fêtes russes. Merci Pierre d'être parmi nous aujourd'hui.
Avec
C'est
plaisir,
un Yana. Honneur. Merci. Ce que j'aimerais dire, que est-ce que le son des carillons, la ronde des mandarines et du sapin, au pied duquel de nombreux cadeaux sont disposés, des cuvettes de salade et des vieux films à la télé, dont les chefs-d'œuvre soviétiques, telle est l'image parfaite de nouvel an célébré à la russe, dit-on. Mais comment exactement se déroule le réveillon en Russie?
Alors, moi, en tant que fils de russe blanc, j'en ai un souvenir plutôt religieux que... C'est-à-dire que moi, on fêtait la nouvelle année française, hein, le 31 décembre, hein, 1er janvier.
Comme tout le monde, en
Comme
fait.
Tout le monde, voilà. Et puis après, il y avait une fête religieuse, hein, puisque c'était dit à Noël. Et à ce moment-là, on se disait « Snovim Godem ».
Snovim Godem.
Voilà.
C'est comme ça qu'on dit bonne année. Snovim Godem.
Après, j'ai des souvenirs de boulettes russes, hein, de borsch, de pirochki, de zakouski, d'autres produits comme ça, de musique russe aussi, évidemment, la balalaïka, hein, laquelle je me suis essayé quand j'étais jeune, mais pas très très longtemps. Après, ça a été Moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'en fin de compte, dans un pays aussi grand que la Russie, puisque je crois que les horaires des trains là-bas, c'est un peu compliqué. Quand on part d'un bout et qu'on va à l'autre bout, en fin de compte, fêter la date du nouvel an la même année, ça doit être un peu compliqué même là-bas. Je pense qu'on doit pouvoir la fêter plusieurs fois dans la journée, même sur plusieurs jours, parce qu'en fin de compte, il faut un peu plus de 24 heures pour aller d'un bout à l'autre.
Tout à fait.
Voilà. Donc,
Vous, finalement, vous connaissez assez bien. Et vous avez eu l'occasion d'y aller?
Non.
Jamais?
Non.
Et les origines de... C'est votre papa qui était russe?
Alors, tout à fait. Mon papa est arrivé en France avec ma grand-mère dans les années 20, 23, 25.
Ah, c'est la belle époque.
Voilà. Bah, ça dépend de quel côté de la frontière on était, je pense.
C'est vrai.
Pour un russe blanc, il y a toujours un parti pris. Hein. Il faut que je le reconnaisse quand même. Il y a une partie de l'histoire, 80 ans, qu'on a plutôt tendance à oublier ou à vouloir oublier.
Mais globalement, c'est quand même des périodes qui font rêver. Des années 20, quand on les annonce.
Voilà. Moi, je parle des années après, moi.
Mais pas les années 20, des années 2000, en revanche.
On est d'accord. Donc, moi, tout ça, c'est... Alors, en plus, on a toujours dit immigrés russes. Je pense que les immigrés russes, tels qu'on les appelle, sont plutôt toujours considérés comme une diaspora. C'est une population qui avait bougé dans un pays étranger, pensant que la révolution ne durerait pas très très longtemps. En fin de compte, 70-80 ans, c'est quand même assez long. Il y en a pas mal qui sont morts entre-temps, je pense. Donc il y avait toujours l'espoir de revenir. Donc il y a tout un tas de traditions anciennes, classiques, qui sont restées, qui n'ont pas du tout été perturbées par l'évolution de l'Union soviétique. Donc il y a eu vraiment des traditions très profondes. Après, il y a eu une intégration qui s'est faite, une assimilation qui s'est faite en France, peu à peu. Et je dois reconnaître que moi, avec mes enfants, par exemple, c'est des traditions que je n'ai pas du tout fait perdurer. Ah, ils me posent des questions de temps en temps. Alors j'ai des petits-enfants aussi maintenant, 6. Donc j'espère que j'aurai pas 6 fois les mêmes questions.
C'est un exploit.
Sur tout ça. Non, après, pour moi, c'est des bons souvenirs, mais c'était plutôt religieux, moi. C'était plutôt en lien avec le Noël russe.
Et vous parlez la langue, Pierre?
Очень плохо.
Очень плохо, ça veut dire très mal. Mais peut-être c'est aussi votre modestie.
Я понимаю.
Donc, я понимаю, ça veut dire je comprends. Et si je vous disais Pergel et Снегурочка?
Ben, c'est un peu ce qu'on traduit aujourd'hui par la Reine des Neiges.
C'est un peu ça.
C'est un conte russe, disons
que on dit pas Père Noël en Russie, on dit Pergel. Et à la différence de Père Noël qui arrive toujours seul, le Père Noël russe, donc Pergel, il est toujours accompagné de sa petite fille Snegurochka. Donc toujours habillé avec une couronne, et c'est des costumes en général qui font rêver. On les voit beaucoup sur les patinoires d'un tous les cas, et les shows des patineuses qui font aussi souvent
fantasmer
beaucoup de personnes.
Je me souviens d'un conte là-dessus très rapidement. C'était deux paysans qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils se font une espèce de bonhomme de neige enfant, et ce bonhomme de neige prend vie. Et puis au fur et à mesure, il avance avec eux dans la vie, et puis un jour le printemps arrive, et puis cet enfant disparaît.
Oh, c'est une histoire très très triste. Je vois très bien de quoi s'agit-il. Bah, mais c'est presque l'histoire de Pinocchio quand on y pense.
C'est Pinocchio, c'est la Reine des Neiges, c'est beaucoup d'histoires comme ça.
Mais sauf Pinocchio.
C'est l'âme slave.
Oui, un bonhomme de neige, c'est mignon. Alors, les films et musiques de nouvel an qui a bercé votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques morceaux?
Les films soviétiques, pas vraiment. C'était pas vraiment dans ce à quoi on avait accès. Et puis en tant que russe blanc, encore une fois, honnêtement, cet aspect est un peu irritant.
C'est vrai que je pense que si on pouvait analyser sur la population d'origine russe en France, l'immigration blanche, c'est peut-être l'exemple de l'immigration le mieux intégré dans la culture française, même dans sa globalité, je pense. Bah, c'est aussi, mon expérience personnelle.
À un point qu'on a oublié tous les russes blancs, artistes, hein, qui se sont intégrés. On pourrait citer Henri Troya, on peut citer des cinéastes, on peut citer Gainsbourg, on peut citer la muse de Dali, Galina.
Absolument. Ça c'est un sujet sans fin. Si on fait le tour des muses, paradoxalement, Picasso et la compagnie.
Je ne m'y connais pas en muse.
Ils étaient. Non, mais c'est vrai que c'est cet âme artistique, c'est quelque chose qui est très représentatif au sein de la culture slave en général. Si je disais Tchaïkovski, les yeux noirs.
Ah bah, Otchinchorny.
Évidemment.
Bah bien sûr.
Et ben, ce serait l'occasion justement de découvrir une interprétation unique des yeux noirs. La fameuse romance russe Les yeux noirs, c'est l'occasion de le découvrir avec une interprétation unique de Fabrice Soulery, qu'on peut trouver sur son disque Fabrice Soulery Piano Solo, et également La danse de la fée dragée, l'extrait de Casse-noisette de Tchaïkovski.
En duo avec Elisabeth Sombard, ce morceau. On trouve d'ailleurs sur le volume 2 de Hellery Christmas.
À ne pas oublier et surtout se dépêcher pour les télécharger ou éventuellement les acquérir sur le blog de Fabrice Soulery, Le canard du pianiste.
Oui. Thank you.
faire nous lire un extrait des œuvres phares de cette littérature richissime et belle. Évidemment, il ne faut pas oublier Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï, Turgenev.
Turgenev, premier amour d'ailleurs. Alors donc, extrait de Tolstoï. À la vue de cette ville étrange, d'une architecture inconnue et insolite, Napoléon éprouvait cette curiosité un peu envieuse et inquiète, qui éprouve les hommes à la vue des formes d'une vie étrangère qu'ils ignorent. À ne pas douter, cette ville vivait de toutes les forces de sa vie propre, à ces signes indéfinissables auxquels, à une grande distance, on distingue sans se tromper un corps vivant d'un cadavre. Napoléon voyait, du mont Poklony, palpiter la vie de la ville et sentait comme le souffle de ce grand et beau corps. Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la Sainte. La voilà donc enfin, cette fameuse île. Il était temps, dit Napoléon. Et mettant pied à terre, il fit déployer devant lui un plan de cette Moscou et appela l'interprète Lelorme. Une ville occupée par l'ennemi ressemble à une fille qui a perdu son honneur.
C'est très beau. Donc, merci beaucoup Pierre. C'était extrait de La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Et revenons au temps présent, ce que je connais personnellement de la tradition russe et surtout soviétique qui persiste jusqu'au présent, c'est les spécialités russes qu'on met sur la table de Nouvel An. Par exemple, salade d'olivier, appelée en France la salade russe ou la macédoine, qui a été inventée à la cour de la Catherine la Grande au XVIIIe siècle par le chef apprenti d'origine française qui se prénommait Olivier.
Pardon Milana,
oui.
Il se nommait Olivier, il se prénommait Lucien, d'après
moi. Comme quoi...
Je ne dirais pas des premiers souvenirs, mais au moins d'après mes informations.
En toute modestie, vous me dites que vous ne connaissez rien, mais finalement, vous vous rendez compte. Je vous remercie beaucoup. Donc, Lucien Olivier, qui a eu cette idée ingénieuse de composer cette salade, d'ailleurs à l'improviste, au moment quand il y a eu des hôtes imprévus qui se manifestaient à la cour, et Catherine, avec une précipitation d'une reine très volontaire et très hospitalière d'ailleurs, a demandé de vite fait composer une salade. Et c'est comme ça que Olivier est né. Il est généralement composé de légumes bouillis, coupés en dés, refroidis et liés par une mayonnaise. Pommes de terre, cornichons, petits pois, carottes, oignons, œufs, auxquels s'ajoute du saucisson de Bologne ou de la viande bouillie. Souvent, du poulet également. On connaît aussi le hareng sous un manteau de fourrure. C'est une salade traditionnelle russe, composée de plusieurs couches, dont les pommes de terre cuites, du hareng, d'oignons, des carottes cuites, d'œufs, de la betterave cuite, chaque couche étant recouverte de la mayonnaise. Il y a aussi viande en gelée, à savoir coledets, et des différents akouskis, dont des tartines de caviar, évidemment, servies avec du beurre. Le matin du 31 décembre, on allume la télévision afin d'alimenter l'atmosphère du Nouvel An. Le jour de Réveillon, ainsi qu'au cours des jours fériés qui suivent, les chaînes de télévision diffusent des films soviétiques populaires qu'on associe toujours au Nouvel An russe. Parmi eux, l'ironie du sort... Ivan Vassilitch change de la profession. En fait, c'est une œuvre phare de près lors de Mikhail Bulgakov. Jeune fille, les gentillons de la chance, un miracle ordinaire. D'où sont des extraits de nombreuses chansons populaires, très appréciées en Russie. Ça vous dit rien, Pierre? Vous avez jamais eu l'occasion de voir ces films?
Non, mais par contre, Bulgakov, je connais quand même.
Oui. Plutôt sur le support littéraire.
Tout à fait.
Fabrice, est-ce que vous avez des suggestions ou des idées qui peuvent clôturer ce sujet traditionnellement
Je pense à la chanson « Katyusha ». Alors, les paroles de cette chanson, qui a traversé le monde entier d'ailleurs, ont été écrites en 1938, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, par Mikhail Isakovsky. Pardonnez-moi, hein, vous me reprenez si je prononce mal. Et la musique était de Matvei Blanter. Alors, cette chanson russe raconte qu'à la fin de l'hiver, quand les combats reprennent, une jeune fille adresse une prière à son amant parti au front en réponse aux lettres qu'elle a reçues de lui.
D'ailleurs, si vous me permettez, on dirait que c'est une chanson extrêmement sexiste, parce que dans les paroles, Katyusha, elle dit que lui, il va protéger la terre, et moi, je vais protéger l'amour.
Oui, mais on peut pas reprocher aux femmes russes de ne pas s'être battues sur le front. J'ai été visiter les avions de combat, les anciens avions à La Ferté-Alais. On m'a fait visiter tout le musée et il y avait un yak russe qui était un avion qui était utilisé pendant la nuit. Il y avait une femme russe qui conduisait, l'autre jetait des grenades sur les tranchées allemandes. Alors Katyusha, je reviens à Katyusha qui monte là, sur la berge fleurie au-dessus des rapides en débâcle et confie à l'aigle sa prière pour que celui qui allait protège la terre natale et sauve leur amour. Alors Katyusha est un diminutif affectueux du prénom russe Ekaterina. Il y a une autre version de Katyusha en 1943, une version italienne, qui s'appelle Le vent siffle, et qui est devenue la chanson la plus connue des partisans italiens, qui eux aussi se battaient contre la Wehrmacht. Donc on comprend, disons, leur attachement à cette chanson, puisqu'ils s'identifient un petit peu aux soviétiques dans leur combat.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol della
pelle. Alors Ivan Rebrov, pour parler de la France, Ivan Rebrov l'a intégré à son répertoire en 1968 et l'année suivante Rika Zaraï. Et ça s'est appelé le Kazachok. C'était une danse qui avait été lancée dans une boîte de nuit qui s'appelait le Saint-Hilaire. Et j'ai même travaillé avec le patron, feu le patron de cette boîte qui s'appelait François Patrice.
Mes amis, allumant un bon feu. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte. Mes amis, ce soir oublions-le.
Расцветали планета груши, поплыли в тумане над рекой. Выходила на бригадюша на высокий берег, на крутой. Выходила на бригадюша на высокий берег, на крутой.
Voilà donc pour Katyusha.
Et votre version, bien évidemment.
Voilà, qui est une version instrumentale, et je dois avouer que j'ai été influencé par la version de Rika Zaraï, par ses inflexions, etc. Parce que c'est celle que j'ai entendue en premier quand j'étais petit.
C'était la version unique de Katyusha interprétée par Fabrice Fulery, à ne pas confondre avec la chanson de Katyusha. Katyusha no Uta est une chanson japonaise populaire du début du XXe siècle, composée dans l'échelle pentatonique majeure par Shinpei Nakayama. Elle est interprétée par l'actrice Tsumako Matsui dans une version filmée du roman Résurrection de Léon Tolstoï, situé en 1914 à Tokyo.
Oui, l'échelle pentatonique majeure, c'est...
Heureusement, vous êtes là pour nous donner toutes ces précisions.
C'est pas heureusement que je chante juste aussi.
Donc, je le répète, pas de politique, surtout de la bonne littérature, un peu de la poésie, surtout de la bonne musique. La bonne musique de Fabrice Leri, en l'occurrence, ce pianiste international, inclassable et unique dans son genre, qui a fondé le festival Blues en Aveyron en mai 2017. À vos agendas pour suivre toutes les actualités du pianiste sur son blog Le Canard du Pianiste et sur la page Facebook du Blues en Aveyron. Et surtout, ne vous, vous trompez pas du calendrier. C'était la coiffeuse aux accents, son édition de janvier, en présence de Pierre Smirnov, Fabrice Leri. Merci à tous, merci David à la technique et à bientôt.
А напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты погубил. Погубил так неумело, так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершить, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или к высокой степени безумия.